Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Alors ce soir, nous allons écouter le premier supergroupe de l'histoire du rock. Il s'appelle Cream, il aura été aussi éphémère que mythique. En fait, il est constitué de Ginger Baker, qui viennent de Graham Bond Organization, qui tient la batterie. Il comprend également Jack Bruce, qui vient aussi du Graham Bond Organization, et lui tient la basse. Et bien sûr, Eric Clapton, qui vient de quitter John Mayall et ses Bluesbreakers, à la guitare. Trois pointures donc à la carrière déjà très impressionnante. C'est en fait le premier power trio composé de telles vedettes du blues et du rock. Par la suite, on en connaîtra d'autres, mais c'est celui-là vraiment qui a marqué les esprits et qui s'est révélé être le premier de cette importance. Leur premier album, Fresh Cream, c'est celui que nous allons donc écouter ce soir, est sorti en 1966. Pour parler de la musique, en fait, elle s'appuie sur du British blues. Elle est fortement métissée de hard, c'est-à-dire beaucoup d'utilisation de la basse, également de la batterie, et avec une intensification du son électrique de la guitare. En fait, ce groupe se révèle efficace, très 60s au niveau du son, et il présente un penchant psychédélique et des touches favorisant l'improvisation. Fresh Cream est en fait tout à fait au niveau de ce que l'on peut attendre d'un tel concentré de stars. Mais finalement, ce qui place cet album au-delà du commun des galettes mortelle, c'est-à-dire celle qui ne dépasse guère une durée de vie de quelques semaines, ce fut l'interprétation libre et étendue de ces morceaux lors des tournées du groupe, qui vont transcender ces chansons dans la tête des teenagers. C'est là que la légende se sera construite, et jusqu'à un certain Jimi Hendrix qui fit de la rencontre avec Clapton la condition sine qua non de sa venue à Londres. Il m'est tout à fait impossible d'entendre l'ouverture de I Feel Free sans penser à l'époque des 60s et son insouciance heureuse. C'est une chanson écrite par Peter Brown pour les paroles. C'est lui qui a écrit aussi Sunshine of Your Love et What Room, ça c'est pour les amateurs de Clapton, chanson qu'il continue de jouer encore aujourd'hui. Et pour la musique, elle est composée par Jack Bruce. Cette chanson a été publiée en 1966, au départ, comme un single. Ça fait partie des exemples dont j'ai déjà parlé, où le manager du groupe décide de la sortir sur un 45 tours au Royaume-Uni et en Europe, et le met sur l'album dans la version américaine. I Feel Free a été enregistré en septembre 1966, pour la petite histoire, sur un simple magnétophone, qui appartenait à Robert Stigwood, qui était le manager du groupe. Et c'est lui d'ailleurs qui prit la décision de ne pas sortir cette chanson sur l'album. Ce morceau est resté célèbre pour la richesse de l'utilisation des trois instruments. Ce que je vous propose cette fois, c'est de suivre un instrument à la fois, ce qui va montrer la volonté du groupe à s'engager dans de nouvelles voies musicales. Le chant est une combinaison vocale. Vous verrez, il y a plusieurs interventions tout au long de la chanson. La batterie, elle joue avec la basse et la guitare. La basse, quant à elle, suit une ligne mélodique propre. Et la guitare accompagne l'ensemble avec de petites piques. Avec de petites piques et envolées, encore nouvelles à l'époque, avec des sustains permanents, ces fameux sustains où la note en fait tient dans la durée et qui deviendra la spécialité de Clapton. Et en effet, Clapton joue sur une guitare Les Paul En plus, c'est l'une des premières fois qu'il utilise ce qu'il appelait à l'époque le « woman tone », le son de la femme, ce qui consistait à mettre l'ampli Marshall de 100 watts à fond, à augmenter les aigus, à couper la basse et à jouer des notes toutes nues ou en sustain. Cela eut un effet énorme à l'époque. Donc je vous propose d'écouter en essayant de suivre chacun des instruments. C'est assez étonnant. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. C'était I Feel Free sur OxyWeb Radio. Écrit par le bassiste de Cream, Jack Bruce, NSU, la chanson suivante, était l'un des titres que le groupe jouait assez systématiquement sur scène dès le début. En fait, Jack avait écrit la chanson lors de la première répétition du groupe. NSU est l'acronyme en français de Non-Specific Urethrite, qui est une forme de maladie vénérienne qu'Eric Clapton avait récupérée à l'époque, sûrement suite à l'une de ses frasques nocturnes. Apparemment, trouvant cela amusant, les musiciens pensaient que ce serait un bon titre pour la chanson. Or, comme beaucoup de morceaux du groupe, sur scène, ce morceau, plutôt court sur l'album, faisait en fait, suite à une extension restée fameuse, plus de 5 à 10 minutes. Aujourd'hui, ce morceau a disparu, sûrement désormais considéré comme un sujet de chanson peu malin. Musicalement, il faut imaginer chaque musicien développant sa partie en live, de l'intro de batterie, puis jusqu'au démarrage de la guitare, pour ensuite être suivi par le chant. Sans oublier la basse, qui est toujours très présente chez Cream. Le jeu entre les instruments est conforme à la marque de fabrique de Cream. Désormais, les interventions de guitare, qui soulignent le phrasé vocal et assurent les intervalles entre les couplets, n'empêchent pas la basse de rester très présente. La batterie virevolte avec frénésie, comme si elle tournait dans l'espace autour des musiciens. Quant à la guitare, inutile de dire que le jeune Clapton est déjà admiré pour ses improvisations fabuleuses.
something that just cannot be bought.
C'était NSU par Cream sur OxyWeb Radio. La chanson suivante s'appelle Spoonful. C'est une chanson blues écrite par Willie Dixon et enregistrée pour la première fois en 1960 par Ollie Wolf, un artiste de l'équipe Chess Records. Ollie Wolf a d'ailleurs dit que pour l'enregistrement, ça avait donné lieu à un travail acharné et intense. C'est l'une des chansons les plus connues et les plus interprétées de Willie Dixon. Etta James, de son côté, en a fait une version rhythm and blues qui a atteint une très bonne place dans les charts en 1961. Mais c'est la version de Cream qui a popularisé le morceau en 1966. Par la suite, elle a été reprise par beaucoup d'artistes. Je pense à Ten Years After, à George Thorogood, plus récemment Robin Ford... et Kenny Wedge Shepherd. Lorsque Cream a enregistré Spoonful, c'était en fait pour qu'elle sorte sous la forme d'un single aux États-Unis. Elle devait même sortir en 1967. Et puis avec tous les aléas des sorties, et notamment le problème de la durée de cette chanson, qui imposait de faire un single double face, c'est-à-dire qu'on tronçonnait la chanson en deux parties, mais en fait la version studio que vous allez entendre tout à l'heure n'a fait céder plus aux États-Unis que sur la compilation Best of Cream, et il se trouve que le groupe était dissous déjà depuis un an. Cream a souvent joué Spoonful en concert, et la chanson a évolué au-delà de la forme blues-rock de l'enregistrement de 66. C'est-à-dire que sur scène, elle a eu vraiment toutes les configurations possibles imaginables, et à chaque fois, c'était l'occasion pour Clapton de placer des solos toujours très différents. Pour info, il existe même une version qui dure 17 minutes et qui est inclue dans l'album Whistle Fire, qui est un album de Cream qui comportait deux albums, deux disques, un disque en studio, un disque en live. Et il se trouve que, pour en venir à la version studio, pour moi, c'est l'un des meilleurs solos de Clapton. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que Clapton crée un style dont on dira qu'il raconte une histoire dans ses chorus. Et je pense vraiment que la légende de Clapton, pour notamment un Hendrix ou tous les guitaristes en devenir, a été transcendée à ce moment-là. Pour moi, il a rendu le blues différent. Little spoon.
precious love satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fighting about the school.
C'était Spoonful par le groupe Cream sur OxyWeb Radio. La chanson suivante s'appelle Cat Squirrel. C'est une chanson composée par Dr. Ross, c'était son nom d'artiste. Il était surnommé The Harmonica Boss. Ça veut dire que c'était d'abord un joueur d'harmonica. Son véritable nom, c'était Charles Isaiah Ross. Il est né dans le Mississippi en 1925 et il est décédé dans le Michigan en 1993. Si j'en parle, c'est que c'est un bluesman américain, chanteur, guitariste, joueur d'harmonica donc, et batteur. En fait, c'est un véritable homme orchestre. L'amusant dans l'histoire, c'est qu'il est d'origine Cherokee, c'est-à-dire un Indien, qu'il a appris la musique très tôt, dès l'âge de 9 ans, qu'il a fait la guerre dans un hôpital américain, et que par la suite, eh bien, il a repris à la sortie de la guerre, 1947, son travail de musicien. Il faut savoir qu'il a joué différentes formes de blues, et on l'a souvent comparé à John Lee Hooker et Sonny Boy Williamson, ce qui pour moi témoigne de la valeur de l'individu, malgré le fait qu'aujourd'hui c'est quelqu'un de complètement inconnu. Dans les années 50, il a eu plusieurs succès, à tel point qu'il a été embauché par Chess Records, qui là encore est un témoignage de sa qualité. Bon, pour la petite histoire, il a dû arrêter de faire de la musique pour travailler à l'usine. Et comme je l'ai dit, il est mort en 1993 à l'âge de 67 ans. Et si je passe ce morceau, c'est pour rendre hommage à ce bluesman qui est caractéristique de ces gens qui, à un moment donné, ont quand même occupé le haut du pavé du blues et puis subitement ont disparu. La multitude, sûrement de musiciens existants, fait que ces gens-là sont très rapidement oubliés. Et je veux aussi en profiter pour mettre l'accent sur le rôle de Jack Bruce sur ce morceau, qui est pour moi un fervent musicien de blues. Il le restera d'ailleurs jusqu'à son décès en 2014. Ici, il joue notamment de l'harmonica, donc c'est lui que vous entendrez jouer de l'harmonica, avec un soutien sans faille à la basse, et avec la batterie qui reste omniprésente. La guitare, pour une fois, est un petit peu en retrait, néanmoins, vous vous en rendrez compte, elle est toujours là. Voilà, c'était Cass Quirrell. Au passage, ça signifie l'écureuil du chat. Sur OxyWeb Radio. La chanson suivante s'appelle For Until Late, de 4 heures jusqu'à plus tard. C'est a priori l'une des premières contributions vocales d'Eric Clapton. C'est là que Eric Clapton a fait ses véritables débuts comme chanteur. C'est une chanson officiellement de Robert Johnson, qui est donc l'auteur de cette chanson. En fait, il s'avère que une autre version existe. Elle date de 1929, elle s'appelle George Band et elle est de du chanteur aveugle Blind Blake. Mais Robert Johnson, en fait, en 1937, est à Dallas et il enregistre cette chanson qui fait partie du répertoire de celle qu'il possède et qu'il est capable de sortir et d'enregistrer donc lors de cette fameuse session à Dallas. Il a enregistré cette chanson, Robert Johnson, le 19 juin 1937. Et je rappelle que Johnson était l'un des musiciens de blues les plus influents de l'histoire. Clapton fait partie de ceux qui ont très souvent déclaré combien son influence a marqué sa carrière. Clapton a également enregistré une autre version de la chanson sur son album Sessions for Robert G. en 2004. Et pour en revenir à la version de Cream, c'est une des plus fidèles version par rapport à la chanson d'origine. Elle n'est pas la plus célèbre, mais je crois qu'elle s'écoute encore avec plaisir. From far until late, I was wringing my hands and cried. From far until late, I was wringing my hands and cried. I believe to my soul that your daddy's the girl close by. From far until late, she may be an old good barroom clown. From far until late, she may be an old good barroom clown. You know she won't do nothing but tell good man reputation down. A woman is like a dresser, some men always running through its drawers. A woman is like a dresser, some men always running through its drawers. She calls so many men to wear apron overalls. Story to tell. C'était donc For Until Late sur OxyWeb Radio. Pour la chanson suivante, je vous propose de rentrer dans le mythique. Je veux parler de Rollin' and Tumblin', qui est un blues enregistré pour la première fois le 14 mars 1929, c'est quand même il y a très longtemps. C'est une chanson qui a été composée par Eben Willie Newburn sous le titre Roll and Tumble Blues. Il est parfois considéré comme le véritable auteur, parfois on dit que en fait, c'est un traditionnel qu'il aurait arrangé. Faut savoir que Robert Johnson, encore lui, a également enregistré une version de la chanson en 1936, sous le titre « If I Had the Possession Over Judgment Day ». La version la plus connue a été enregistrée en 1950 par Muddy Waters, avec d'ailleurs Big Rufford pour la petite histoire à la basse. C'est cette version qu'il a révélée au grand public. Je parlais de chansons mythiques dans l'introduction. En effet, c'est l'un des grands standards du blues, avec plus de 60 reprises Et si je dois en citer quelques-unes, je citerai bien volontiers Elmont James en 1960, donc Cream en 66. Il y a eu Canada Heat en 67, Johnny Winter en 68, Fleetwood Mac en 71, et puis bien d'autres, bien entendu. Eric Clapton, pour sa part, en a fait une version en 1992 dans le show Unplug de MTV, et il a repris ça avec l'album Me and Mr. Johnson, qui était encore un album de reprise de chansons de Robert Johnson. Jeff Beck, récemment, en 2000, dans l'album You Had It Coming, a fait une version que, personnellement, j'aime beaucoup. Enfin, Bob Dylan, plus récemment, en 2006, dans son album Modern Times, en a fait une nouvelle version. Donc tout ça pour expliquer que finalement tous les grands artistes des années 60 et des années 70, et pas seulement, ont été amenés à interpréter cette chanson. L'autre particularité de cette chanson, c'est qu'elle est exécutée en open tuning ou à corps ouvert, et que son tempo varie d'une valeur initiale de 140 battements par minute à 158 battements par minute. La version de Cream a donné une résonance mondiale à cette chanson, de par la notoriété évidemment acquise par le groupe. Elle est encore jouée régulièrement par Clapton sur scène, disait donc pour le show Unplugged qu'elle a joué, mais encore récemment dans ses tournées mondiales qu'il réalise un peu partout, il a l'occasion de rejouer cette chanson. Pour moi, elle fait partie des chansons indémodables et adaptables à tous les styles de musiciens. Cream a choisi d'en faire une version un peu foufolle, mais de temps en temps, cela ne fait pas de mal. Rallin' and Tumblin' par le groupe Cream sur OxyWeb Radio. La chanson suivante s'appelle I'm So Glad. Elle a été composée par Skip James. Alors, Skip James, pour moi, est quelqu'un d'assez remarquable parce que c'est quelqu'un qui a connu l'époque des années 30. Il a joué avec les plus grands, il a connu Robert Johnson et il a parcouru à peu près tous les états du sud des États-Unis et sans que pour autant sa notoriété soit immense. C'est quelqu'un qui a disparu pendant 30 ans de la scène musicale et un beau jour il a été retrouvé par des amateurs de blues, en particulier un membre de Canadet, et tout son répertoire a été remis au goût du jour dans le cadre des années 60. Alors, I'm So Glad est donc un vieux morceau de blues écrit donc par Nehemiah Skip James, qu'on appelait plus simplement Skip James. Lorsque le groupe a enregistré la chanson, ils ont veillé, et ça c'était une démarche très très nouvelle à l'époque, à ce que Skip James justement reçoive toutes les redevances auxquelles il avait droit. Ce qui n'est pas souvent le cas, et en tout cas à l'époque, ce qui n'était pas souvent fait pour ces musiciens noirs. Et c'est Clapton en personne qui, lors d'une tournée US, a amené une mallette pleine de dollars, alors on a parlé de plus de 10 000 dollars, à la maison de Skip James, et donc il a remis en main propre aux musiciens. Sans nul doute, cet argent a probablement contribué à améliorer les conditions de vie et donc les vieux jours de Skip James. Il faut savoir en plus, ce dernier a eu l'opportunité de voir Cream jouer sa chanson sur scène avant de succomber quelques mois plus tard d'un cancer, et c'était en 1969. Jack Bruce, il faut le savoir, a reçu une lettre de remerciement de sa veuve, et je pense que c'était pour souligner toute la foi qu'il mettait dans la chanson. C'est lui qui assure les vocaux, et c'est vrai qu'il a une intensité dans son chant qui est assez impressionnante. Et donc, comme je disais, I'm So Glad est une chanson du début des années 30 de Skip James. Elle est inspirée d'une autre chanson, d'un dénommé Art Is More, et d'un compère George Little, qui s'appelait So Tired, et qui, elle, datait de 1927. Pour la petite histoire aussi, la chanson a également été reprise par Deep Purple sur leur premier album datant de 1968. Je vous propose d'en écouter quelques morceaux. C'est vrai qu'on a du mal à reconnaître le Deep Purple de In Rock ou de Machine Head. Bon, pour revenir à Cream a repris la chanson en utilisant un arrangement blues rock. Ils l'ont enregistré en septembre 66 et I'm So Glad était un des morceaux caractéristiques lors de leur concert. Comme je le disais, Jack Bruce produisait une très très grosse intensité sur scène pour interpréter ce morceau. Un enregistrement d'ailleurs qui a été réalisé au Forum en octobre 1968, le Forum est une célèbre salle américaine, a été inclus dans l'album Goodbye, qui a été le dernier album du groupe, paru en 1969, du temps de leur existence. C'est cette reprise de Cream qui a fait le plus connaître Skip James par le jeune public américain comme européen.
Don't want to do.
C'était donc I'm So Glad, interprété par le groupe Cream sur OxyWeb Radio. Le dernier morceau que je voudrais vous faire écouter ce soir est un instrumental. Il était composé par le batteur Ginger Baker. Cette chanson, c'est en fait un solo de batterie de 5 minutes, avec une brève introduction de la guitare et de la basse, et qui reviennent à la fin du morceau. C'est une façon pour moi de rendre un peu hommage au batteur dont on ne parle pas souvent, et qui pourtant, évidemment, dans le blues comme dans le rock, ont un rôle éminent. Pour revenir à l'instrumental, il est remarquable car il présente l'un des premiers solos de batterie enregistrés dans l'histoire du rock. Ginger Baker a commencé à développer Todd alors qu'il était encore membre de la Rainbow Organization. Mais ce n'est que lorsqu'il a rejoint Cream qu'il a véritablement enregistré ce solo pour la première fois. Et la chance qu'il a eue, c'est de pouvoir le faire intégrer dans l'album du groupe. Le solo comprend une séquence de motifs de batterie qui sont construits, variés, puis abandonnés, donnant lieu à de nouveaux modèles. Ce que je veux dire, c'est que c'est un morceau qui n'est pas une simple suite linéaire de coups de batterie. Vous verrez, il joue d'à peu près toutes les parties de la batterie. C'est un des premiers batteurs, justement, qui a été capable de jouer à ce qu'on appelait un double kit, c'est-à-dire qui était capable de jouer avec des doubles caisses et doubles toms et une multitude de cymbales, des grosses caisses, et qui faisait qu'en fait, il arrivait vraiment à jouer, à donner tout au moins une rythmique extraordinaire pour le groupe que représentait Cream. Il faut savoir aussi qu'il existe une version live de 16 minutes, dont 13 minutes de solo. En ce qui me concerne, c'est un des premiers solos de batterie que j'ai écouté et que j'ai considéré comme étant finalement un exercice intéressant. J'étais très jeune, j'avais moins de 15 ans, mais déjà à l'époque, je considérais que c'était vraiment intéressant d'écouter un solo de batterie. Par la suite, il y en a eu d'autres, Ian Paice, John Bonham, mais c'est vrai que celui-là a fait date. Il existe aussi une version légèrement étendue de cet enregistrement avec des guitares et des basses supplémentaires, éditée à partir d'une autre performance réalisée en studio. Elle est disponible sur une compilation, Those Were the Days, qui est parue en 1997. Todd a également été joué en 2005 quand Cream a été réuni de nouveau, Royal Albert Hall, et d'ailleurs le solo de batterie apparaît bien sur l'album. Pour la petite histoire également, Ginger Baker, à la suite de Cream, a fait partie de beaucoup de groupes, dont notamment le Ginger Baker's Air Force. Ginger est né à Londres en 1939. Il fut orphelin dès l'âge de 4 ans, son père étant mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été surnommé Ginger, qui veut dire rouquin en vieil anglais, pour la couleur de ses cheveux roux flamboyants. Il est décédé en octobre 2019 à l'hôpital de Canterbury, dans le Kent, après une succession de problèmes de santé liés en grande partie pour son alcoolisme et son utilisation féroce des drogues. Ce morceau clôture cette émission consacrée à Cream et son premier album, Fresh Cream. En 2003, l'album fut classé à la 101e place de la liste des 500 plus grands albums de tous les temps établie par le magazine Rolling Stone. En fait, cet album pour le groupe Cream contient des chansons qui seront des prétextes à des développements sur scène qui parfois duraient plus de 10 minutes, ce qui aujourd'hui évidemment paraît un peu impensable. Mais à l'époque, c'est là qu'Eric Clapton a obtenu ses titres de gloire et encore aujourd'hui, je le sais, reste quand même quelqu'un d'assez important dans l'histoire de la guitare électrique, notamment grâce à la richesse de ses improvisations sur scène qui étaient toujours assez étonnantes. À l'époque, il était dit que le blues, la pop et le rock commençaient en fait à fusionner pour donner quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau va s'appeler le heavy metal, le hard rock au tout début, voire même le jam rock. Tout ça pour dire combien l'héritage de Cream est important pour la suite de la musique qui est arrivée. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour découvrir le groupe américain The Buffalo Springfield. Comprenez notamment dans ses rangs Stephen Stills et Neil Young, qui par la suite auront une carrière assez impressionnante dans l'histoire de la musique moderne. D'ici là, roulez blues. Comme il nous reste un peu de temps, je vous propose de terminer l'émission avec un extrait de Sweet Wine, tiré d'un des albums live de Cream. Je vous demande de faire attention au jeu indépendant des trois instruments principaux, la guitare, la basse et la batterie. C'est un morceau ou un extrait car révélateur de ce qu'était l'art tant apprécié du groupe Cream. Oh.